Monsieur Jean-Baptiste Ndundu, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les réformes que la société civile veut bien apporter à la loi électorale de 2006?
Ok. Il y a particulièrement, de l'expérience que nous avons eue à l'observation électorale en 2006, nous nous étions bien rendu compte que le suffrage universel indirect posait problème. Et on s'était dit que pour arriver à voir les élus produire des effets suffisamment bénéfiques pour les populations, il était important qu'un certain nombre d'élus au suffrage indirect puisse l'être de manière directe.
Quand vous parlez du suffrage universel indirect, là vous voyez principalement l'élection des sénateurs.
Il y a l'élection des sénateurs, mais il y a aussi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui étaient élus par dans les assemblées provinciales. Nous, on aurait voulu qu'ils puissent être élus au suffrage universel direct par la population. Que la population vote directement et les gouverneurs et les sénateurs.
La constitution qui vient d'être révisée donne au président de la République les prérogatives de révoquer un gouverneur. Est-ce qu'un gouverneur élu au suffrage universel, ça ne va pas poser une entorse? Il serait élu par le peuple mais révoqué par le président de la République.
Ben justement, c'est pour ça qu'on aurait voulu que le débat sur la constitution puisse être le plus large possible. Malheureusement, il ne l'a pas été, parce qu'aujourd'hui, nous savons que le gouverneur gère la population dans son entité territoriale qui est la province. Si ce gouverneur n'est pas sensible aux préoccupations de la population, ça pose problème. Malheureusement, le président de la République ne peut pas être dans toutes les provinces et ne peut pas s'occuper des prérogatives qui sont les prérogatives des provinces. Et donc, pour nous, nous pensons qu'il est important que la population puisse désigner le gouverneur de manière directe, disons, au suffrage universel direct.
Quelle autre réforme voulez-vous apporter à la loi électorale?
Il y a aussi, nous allons dire, la parité homme-femme. Nous avons constaté que lors des élections de 2006, cette parité n'a pas été respectée. Il est important que l'on trouve des mécanismes qui puissent permettre à ce que la représentation des femmes puisse être effective.
Par quels moyens?
Par la composition des listes. Si les listes sont des listes qui sont zébrées, eh bien, on pourra permettre à ce que la femme soit suffisamment représentée.
Et vous ne vous intéressez pas au problème d'âge de candidat?
Non, nous pensons qu'aujourd'hui, on ne peut pas limiter, donner un maximum par rapport au candidat président de la République. Pour nous, ça ne fait pas partie du débat.
En d'autres termes, pour vous, ça ne pose pas un problème qu'il y ait un président de la République avec 80 ans ou 90 ans?
Non, non, du point de vue du rôle qui est celui du président de la République, celui qui a 80 ans, en tout cas en ce qui nous concerne, ne pose pas de problème. Nous serons beaucoup plus gênés si on nommait un premier ministre qui ait 80 ans.
Vous ne craignez pas qu'on vous pointe du doigt d'être d'un côté ou de l'autre, surtout que les élections s'annoncent?
Non, non, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons essayé de réunir un plus grand nombre d'acteurs pour essayer techniquement de pouvoir prendre en compte toute la vision possible. Et nous le faisons, nous l'avons fait avant que les acteurs politiques ne se prononcent très clairement et avant que l'Assemblée nationale soit officiellement saisie.
Vous ne pensez qu'aux candidats? Est-ce qu'il y a des réformes qui devraient toucher les électeurs, par exemple?
Ah ben oui, parce que nous pensons qu'il est important, particulièrement en ce qui concerne la localisation des bureaux de vote, qu'on puisse effectivement ne pas permettre à ce que les distances soient trop éloignées, parce que ça décourage les électeurs. Il est important que même dans la loi électorale, on fixe un maximum de kilométrage, un maximum de distance entre deux bureaux de vote pour permettre à tous les électeurs de pouvoir effectivement accomplir leurs droits. Nous sommes aussi intéressés par rapport aux électeurs migrants, aux Congolais de l'étranger. C'est une question qui est très complexe. Ce sont des Congolais qui ont des droits le droit de vote également.
Déjà, qu'on a évoqué les contraintes financières pour ne pas organiser deux tours à l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez qu'il y aura assez de l'argent pour que les Congolais de l'étranger puissent voter aussi?
Nous savons que les contraintes logistiques existent. La préoccupation, c'est notre capacité à identifier nos frères qui sont dans les pays étrangers. Et je pense qu'on a montré, avec l'acquisition des passeports, qu'il était possible de les identifier. On pourrait se servir de cette base-là également pour pouvoir prendre en compte ces Congolais vivant à l'étranger. Et s'il est possible de les identifier, on peut les enregistrer et leur permettre effectivement de pouvoir jouir de leurs droits.
Jean-Baptiste Ndundu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.